Salut à tous et bienvenue sur Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL et c'est la reprise pour nous. On est en direct le 17 avril avec Aptin, Nico et Alex. Comment ça va les gars?
Bonjour.
Hello, salut à tous.
Bonsoir.
Ah ouais, c'est... Bonsoir. T'as quatre univers là, bonsoir.
Ouais, c'est clair. Bonsoir. Et il y a Lucho qui va nous rejoindre dans un instant. Pour parler free agency, transfert, trade d'intersaison, on vous a laissé la dernière fois un petit peu en queue de poisson à la fin de la saison de régulière avec l'incident pour Hamlin. On ne savait pas trop si la saison était finie, pas finie, etc. Donc tout ça c'est derrière nous, par chance, et on se projette maintenant sur 2023 avec les premiers transferts et on va discuter un peu de l'impact sur la fantasy.
Et avant tout, impact ou pas, il faut que tu préviennes les gens que tu nous as donné une liste de noms et on était tous pas trop contents des noms qu'on avait. Mais qu'est-ce qu'on va dire sur ce joueur en plusieurs minutes? Mais écoute, on va broder. Hein.
On va faire, j'ai essayé de les grouper un petit peu par thème pour que c'est une certaine logique. Mais c'est vrai qu'il y a des moves, il y a pas mal de chaises musicales et de trucs. On sait pas trop ce que ça va donner, d'autant plus que la draft est encore dans 2 semaines, donc enfin dans 10 jours. Côté admin, donc du coup cette année on va travailler un peu plus étroitement avec le front office qui ont commencé des podcasts sur la NFL il y a 3 ans, qui jouent avec nous dans la ligue avec toi Aptin, la ligue des légendes, qui nous ont honteusement battus pour la première année. Donc on fait une Kevin Durant, comme on les a pas battus, on les rejoint. Et on va s'assurer que s'ils nous battent à nouveau, on pourra dire que c'est grâce au fait qu'ils sont liés d'amitié avec Fantasy Ballers. En tout cas, ça va nous permettre de, j'espère, faire des trucs un peu plus en commun. Et eux, ils ont d'ailleurs mercredi un jeu autour de la NFL en direct, mercredi soir, qui devrait être assez marrant à suivre si vous avez envie de jeter un œil. Donc voilà, pour les nouveaux qui nous suivent, parce qu'il se peut qu'il y ait des nouveaux. Je vais mettre une nouveauté, un QR code pendant quelques secondes pour que vous puissiez voir tous nos liens si jamais vous nous suivez pour la première fois sur Twitch ou sur YouTube. N'hésitez pas, on est là sur Insta, Twitter, éventuellement Facebook, surtout sur Sleeper parce que nous on est là pour jouer quand même plutôt que raconter des trucs sur les réseaux. Donc sur Sleeper on a un channel aussi, on met les news, on met les trucs et puis on a des ligues auxquelles vous pourrez participer la prochaine saison. Voilà pour l'admin, parce que je vois qu'Aptin commence à en avoir assez.
Pas donc... du tout, non, je suis en train de regarder.
C'est en train de marcher vraiment. Voilà, ça marche. Ouais. En direct, je savais même pas
si ça marchait.
J'ai reçu une alerte pour dire que quelqu'un a streamé, a scanné mon code. Super.
D'accord, là, tu vois.
C'est Aptin.
Tu nous fliques déjà, c'est parti.
Yes. Alors, c'est parti. On va commencer direct dans le vif du sujet pour ne pas perdre trop de temps avec le gros transfert, le gros trade de cette intersaison. Les Panthers qui ont lâché combien de picks? Je ne les ai même pas sous les yeux. Ils ont lâché leur premier pick qui était donc le pick 9. Leur pick 2024, je crois, ou 25, vous allez pouvoir me corriger. Je crois premier pick 2024, deuxième round de 23 et deuxième round de 25, plus DJ Moore pour avoir le premier pick cette année et avoir le premier choix sur notre ami Anthony Richardson, évidemment. Non? Bon, ça, on verra plus tard. Mais du coup, DJ Moore tradé aux Bears, un receveur de choix pour Justin Fields et pour les Bears. Derrière les Panthers qui ont recruté pas mal de vétérans du coup pour préparer un peu l'offense pour le joueur qu'ils allaient recruter avec leur pick s'ils ne l'échangent pas à nouveau. Donc voilà, j'ai mis les 5 joueurs là, DJ Moore aux Bears, Miles Sanders qui a signé aux Panthers du coup, Adam Thielen et DJ Chark en receveur et Hayden Hurst en tight end. On va commencer avec Aptin. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de DJ Moore aux Bears?
Alors déjà, j'ai évité de dire trop de bêtises sur DJ Moore si je me fais insulter par un ami en commun. Moi, perso, je suis très content de voir DJ Moore rebondir dans une équipe où on lui propose plus de choses que les Panthers l'année dernière. Maintenant, je vais m'expliquer. Je trouve que DJ Moore, tout le monde sait que c'est peut-être en talent pur, c'est un top 10, je crois, à son poste, en tout cas, je pense. Maintenant, il a été quand même pas gâté l'année dernière avec les QB, des Panthers. C'est pas qu'ils étaient mauvais, mais ils ont quand même un jeu ultra conservateur. On parle d'Arnold, Mayfield, et le troisième, c'était Walker, si je dis pas de bêtises. Ça reste pas des personnes qui vont beaucoup, beaucoup jouer sur les receveurs et du big play. Dans 10 pour les receveurs. Donc, moi, j'étais assez déçu de la saison dernière. Donc, je pense qu'il tombe dans une équipe qui essaie de produire quelque chose. Après, Justin Fields, il a fait une très bonne deuxième partie de saison. Est-ce que c'était un bon passeur? Ça, je pense qu'il faudrait quand même une année ou deux pour voir si exactement. TBD. Et surtout que moi, je faisais partie des personnes qui étaient très, très high sur Mooney et j'ai peur d'un impact d'un receveur 1 avec Justin Fields. Maintenant, quand j'ai commencé, quand tu m'as donné le nom, moi, j'ai commencé un peu à regarder ce qui se disait et je tombais assez d'accord avec quelqu'un qui parlait de pas essayer de comparer avec un Mooney parce que Mooney n'était juste pas à sa place en receveur 1, vraiment gros receveur 1. Et qui va en tout cas trouver une bonne place de numéro 2. Je ne pense pas que DJ Moore va exploser sous Justin Fields, mais je pense qu'on va retrouver des standards plus qui se rapprochent de ce qu'il pouvait, enfin, ce qu'il devait faire l'année dernière.
Ouais, carrément. Et il y a aussi Chase Claypool qui avait rejoint en courant de saison dernière. Du coup, avec les trois receveurs plus le Titan Cole Kmet et un comité de running back, on va regarder ça tout à l'heure. La vraie question pour moi, ils sont assez complémentaires, les trois receveurs, avec Kmet. Moore, à 25 ans, il a vraiment l'upside du WR1. Mais la vraie question, ça va être le volume, parce qu'on a vu une grande partie de la saison dernière, un volume de passes hyper faible. Et du coup, avec tous ces noms-là à qui faire des passes, c'est plus ça qui m'inquiète. Moore, on a vu l'année dernière aux Panthers, il faisait des super matchs quand il était targeté, il faisait des matchs inexistants, forcément, bah, quand il ne l'était pas. Ça dépendait beaucoup du QB, donc ça va être ce rapport-là qui va être important de voir comment il se développe. Vous avez d'autres avis, les gars ?
Non, moi, vraiment d'accord avec ça. J'aime beaucoup Mooney, je l'ai eu pas mal je l'ai pas mal pris l'an dernier en Dynasty ou même l'année d'avant quand il avait des bons rapports sur lui. Je pense que tu as raison, il sera vraiment mieux dans son rôle de numéro 2.
Bah, sa meilleure saison, c'était avec Allen Robinson à côté.
Voilà, exactement. Et du coup, il y a ça, et ils ont vraiment ajouté un peu d'armes, un peu de partout pour Fields, qui en plus, lui, écarte le terrain tout seul avec, avec ses potentiels de course. Donc, il y a vraiment de quoi faire, et DJ Moore, il va avoir, je pense, des targets et des gros jeux. Et il pourra pas vraiment être doublé parce que sinon Mooney Kmet ou Tonyan ils vont avoir aussi beaucoup de ballons, donc il y aura du volume de partout et ça peut être sympa comme attaque chez les Bears cette année.
La pression elle est sur les épaules de Justin Fields.
Ouais, totalement. Là, plus trop d'excuses. Ça fait 2 ans qu'on dit il a pas d'aide, et là il en a. Si jamais ils ont encore le pick 9-1, donc si avec le pick 9. À voir ce qu'ils font, mais s'ils rajoutent encore quelqu'un, peut-être en ligne offensive ou quelque chose comme ça.
Il faudra un moment. Ouais. Enfin,
c'est la ligne offensive obligatoirement.
C'est que la ligne offensive. Là, seul chantier qui reste, c'est ligne offensive. Tu as plein de choix de draft. Je pense que tu as encore un peu d'argent. Il n'y a aucune raison de pas blinder la ligne offensive.
Ouais, totalement.
Ils ont déjà commencé à la bosser, hein, la ligne offensive sur la O-line, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on connaît la direction. Enfin, de toute façon, je pense que le front office de Chicago est au courant. Ils ont un mec qui peut être très fort. Si tu et encore sous contrat rookie, si tu ne l'encadres pas maintenant, tu ne l'encadreras jamais. Quoi.
Ouais, yes. On a vu plein de QB rookies justement qu'on peut encadrer, qui sont cassés la gueule. Donc moi, ça me fait peur parce qu'on a un historique d'équipe qu'on dise ben non, ils ne sont pas aussi teubés. Et au final, ils le sont. Donc, moi, ça me fait peur, mais j'espère aussi.
Alors, passons du côté Panthers, avec surtout l'addition de Miles Sanders, running back. 4 ans, 25 millions de dollars pour faire partie du rebuild. 2 receveurs, Adam Thielen et DJ Chark, parce que quand ils avaient tiré des Moore, on avait dit, bah, il n'y a plus personne, il y a Terrace Marshall, ton petit poulain, il y a Shee Smith, il y a La Visca Cheno, ça fait quand même un peu léger. Et Hayden Hurst en tight end. Tout ça pour probablement aider un QB qu'ils vont drafter avec leur pick 1 ou éventuellement pick 2 ou 3 s'ils reculent encore un petit peu. Commençons par Miles Sanders. Comment il va s'insérer là-dedans et qu'est-ce que tu penses de son transfert hors de Philly?
Tu me poses la question à moi parce que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, je suis l'expert Panther. je suis très content. Alors, pour le coup, on va peut-être recommencer. Je suis très surpris du contrat qui a été donné à Miles Sanders.
C'est peu, hein.
Parce que En fait, je ne pensais pas qu'il allait être dans une équipe qui allait en faire le running back numéro 1. Ouais. Et clairement, le running back numéro 1. Et moi, je trouve que son contrat sur 4 ans et ce qu'il prend, c'est très bien. Il arrive dans une équipe qui, comme on est en train de l'expliquer, comme on le voit à l'image, bosse sur le jeu offensif. Ils ont quand même quelques playmakers. Et le fait qu'ils vont prendre un QB rookie, je ne pense pas que ce soit une surprise à la prochaine draft, il va avoir besoin d'un running back et d'un jeu au sol qui marche pour l'aider. Et je trouve que Miles Sanders fera l'affaire. En tout cas, en termes de fantasy, je pense qu'il devient peut-être un top 15 running back, si on parle de PPR. Je pense qu'il va aussi reprendre un peu de jeu à la passe qu'il avait totalement perdu avec l'explosion de comment ça s'appelle, c'était Hurts, si je dis pas de bêtises. Oh, c'est ça. Oh, non, moi, tu m'enlèves quelques mois, ça devient compliqué. Et dans une équipe, au final, qui n'utilisait plus du tout sur la goal line. Il se faisait remplacer par deux running backs, Brandon Scott et je crois que c'était Gainwell. Donc, je pense que toutes ces touches vont lui être réattribuées. Et je pense vraiment qu'il peut rebondir. Il a fait une bonne année dans les stats l'année dernière quand on regarde le total de points. Mais c'était très irrégulier. Là, je pense qu'on va tomber sur des points un peu plus réguliers, peut-être moins hauts, parce que là, je ne pense pas qu'il scorera beaucoup l'offense des Panthers. Mais je pense qu'il devient vraiment un bon running back, low-end running back sur la saison. Et je suis très content pour lui.
Ouais, ouais, top 15. Si effectivement son jeu à la passe se développe à la réception, sachant qu'il n'en avait plus trop à Philly. Et
parce sinon, que c'était le jeu de Philly.
Un peu plus bas. Exactement, donc ça, c'est ça. À voir comment ça se développe et puis surtout quel QB il recrute, parce que je pense qu'il y a trois rookies avec des profils très différents. On en parlera très rapidement en fin d'émission. Donc,
ouais, deux.
Ouais, deux ou trois, ça, ouais. Alex, Adam Thielen, DJ Chark en receveur avec Hayden Hurst, tight end. Qu'est-ce que tu penses de ces armes pour justement développer un jeune QB?
Adam Thielen, alors c'est l'expertise et l'expérience qui arrive en fait exprès pour ce rookie hein, qui va arriver. Je pense que d'abord, il a très peu de blessures, donc déjà il a du gaz encore. Donc, il passe du coup au VR1 de DJ Moore. Le problème, c'est que ce sera un rookie QB quoi, qui va arriver. Donc, en termes de fantasy, il faudra voir comme un WR3, quoi, je pense. Pas aller au-delà. Ouais. Ça serait trop un reach de le prendre alors soit en redraft assez haut, mais en fantasy, bon, bah, il est là. En dynastie, je veux dire, il est là. On l'a, tant mieux. C'est un bon élément. Il a quand même plutôt performé dernièrement, malgré Justin Jefferson. Donc, c'est un très bon ajout. C'est l'ajout idéal, en fait, pour un QB rookie, quoi.
Yes. Ok. Autre chose sur les Panthers, Nico, peut-être?
Non, mais c'est juste sur pour revenir sur Sanders. Il est quand même dans un. Je pense qu'il sera dans un comité parce que les bons matchs des Panthers l'année dernière l'ont été avec le comité à 3 à l'époque Foreman plus Bard et Blackshear. Les deux autres sont encore là, Bard et Blackshear. Donc il aura un split de carry, ça c'est sûr. Et après, toujours le même souci, comme dans le chat ils le disent, effectivement, il faut que l'attaque arrive au red zone pour que ça marche. Ils ont encore une bonne défense, donc ils vont avoir des opportunités régulièrement, je pense. Et du coup, il y aura des opportunités pour Sanders, mais top 15 peut-être, mais plutôt 10-15 qu'au-dessus.
Ouais.
C'est un rebuilding total en offense hein, chez les Panthers, donc... Faut pas s'attendre tout de suite à ce que ça fit, quoi. Ça c'est clair. Ça va être du gros boulot pour le nouveau coach.
Mais du coup, en dynastie, vu qu'on a déjà, comme disait Abtine, il y a 4 ans, donc il compte sur lui pendant 4 ans. Donc l'année 1, l'année 2, ça peut aussi, enfin il peut y avoir un upside assez costaud pour Sanders.
Et avoir aussi le contrat de Foreman, je crois que je sais pas si c'est, il est en fin de contrat déjà ou
Foreman il a signé aux Bears.
Non, Foreman il est à il est aux Bears, c'est
Hubbard. Donc il y a plus que Hubbard.
Doit lui rester Hubbard doit lui Blackshear, je crois qu'il était rookie l'an dernier, donc il doit lui rester un peu et Hubbard il doit lui rester un an, mais
Miles Sanders, malgré Jalen Hurts, hein, il était quand même RB15 en PPR, RB10 en standard. Hein, donc là, malgré le comité, c'est quand même assez costaud. Donc là, lui aussi, il va avoir un peu la pression sur les épaules, hein, parce qu'il va avoir du travail.
Ouais. Ok, les gars, on va enchaîner. On va passer justement à d'autres running. Attends, pardon, je dis n'importe quoi. On va passer à des QB. Avec Derek Carr qui a quitté, qui a été cut, je crois, de mémoire, finalement cut par les Raiders et qui a rejoint les Saints, contrat de 4 ans, et qui le remplace aux Raiders, c'est Jimmy Garoppolo, qui signe un contrat de 3 ans, mais dont 2 sont garantis. Commençons par Derek Carr aux Saints, où il rejoint Michael Thomas, qui a re-signé pour un an, Chris Olave, Jarvis Landry, qui est toujours là. Des tight ends intéressants, toujours le couteau suisse Taysom Hill, Juwan Johnson. La grosse question, ça va être quid de Alvin Kamara, suspension, pas suspension, etc. Ça va être la chose à suivre pendant l'été. Mais ils ont ajouté aussi Jamal Williams, comme on en parlera dans une minute. Derek Carr aux Saints, bonne nouvelle en dynastie pour lui, mauvaise nouvelle, qu'est-ce que vous en pensez?
Je vais commencer. Franchement, j'ai pas été hypé du tout par la signature. En fait, je pense que c'est un peu dans la continuité de ce qu'on voit avec Derek Carr, joueur moyen mais honnête qui arrive dans une équipe moyen mais honnête. J'ai pas du tout été, enfin, j'ai pas réussi à me hyper malgré tous les playmakers sur le papier que tu peux voir. Olave, Williams, t'en as parlé. Mike Thomas, on sait pas s'il va revenir. On sait que Elfie, ça fait 4 ans qu'il n'a pas été, 3 ans qu'il n'a pas été, mais ça peut être un excellent receveur. Alvin Kamara, suspendu, pas suspendu. Donc sur le papier, il y a beaucoup de choses qui montrent que Derek Carr est quand même bien entouré. Très bonne ligne offensive. Je pense qu'il faut souligner que le niveau est faible en NFC South. Donc ça veut dire qu'il peut tomber sur des équipes, des matchs où il peut quand même scorer 30 points. Et je crois que pour la première fois de sa carrière, il a une putain de défense. Et ça, je pense que ça va le changer. Et qu'il sera encore plus peut-être dans son rôle de game manager. Maintenant, il n'a jamais vraiment prouvé, il a peut-être fait une bonne saison, il ne court pas, il ne court vraiment pas pour un QB aujourd'hui. Kamara, j'ai des gros doutes qu'il fasse sa saison. Williams, on sait quel type de joueur c'est, ils vont beaucoup l'utiliser à la course. Je crois que je ne sais pas si c'était le league rushing TD l'année dernière, mais pour moi,
17 touchdowns.
Il peut l'être encore cette année. Je suis pas étonné s'il l'est. Surtout si, moi, je me pose beaucoup de questions sur Kamara. À part Olave, je vois pas de signe d'une grosse saison pour Derek Carr. Donc, j'essaie de me hyper. Conclusion, c'est que j'arrive pas parce qu'il y a trop de incertitudes et je pense qu'on connaît tout. On connaît tous Derek Carr et ce qu'il peut faire même dans une bonne équipe.
Ouais. Moi, je me demande si ça ne va pas faire un peu comme certains joueurs où pendant longtemps, je les trouve trop overrated en fantasy et je suis toujours déçu. Et puis, tout d'un coup, ils perdent tellement de hype justement que finalement, ça sera peut-être un QB2 autour de QB15, QB16, un peu à la…
Je l'avais 20. Je l'avais 20. Quand je dis top 20, c'est dans les 20e.
Ouais,
je dis tout à l'heure, Miles Sanders, ce n'est pas top 15, c'est dans les 15.
Mais en mode relativement avec un plancher assez reliable quand même à voir.
Il
n'aura pas l'upside du QB1.
Ce que tu as eu sur les années précédentes, c'est ce que tu auras cette année. C'est-à-dire, bon match-up, j'ai besoin de 14 points, je line en QB2. Voilà.
Ouais. Jimmy Garoppolo aux Raiders, du coup, un peu un stopgap. Je pense qu'ils vont quand même essayer de drafter un QB. Mais un joueur qui a montré qu'il pouvait encore rendre service à chaque fois qu'on l'appelle et qui peut compter quand même sur Davante Adams et sur Jacoby Meyers, comme on verra tout à l'heure. Lucho, tu le connais? Jimmy Garoppolo.
Légèrement, ouais, on va dire ça.
Qu'est-ce que tu penses de sa signature aux Raiders?
Après, je pense qu'ils ont été le chercher tout d'abord parce que c'est McDaniels le coach. Hein. Faut pas se leurrer. Quand on voit les recrues qu'ils ont fait, ils ont eu quand même beaucoup d'anciens Patriots dans l'équipe. C'est un
quelques
métier.
Quelques-uns.
Ouais, voilà, quelques-uns. On va mettre dans le coaching staff. Après, est-ce que c'est une signature importante? Je pense que ça peut être sympa. Maintenant, de là à dire que ça va être le QB du futur, je pense pas pour les Raiders. Ça va être intéressant, je pense, d'un point de vue fantasy, parce que c'est quelqu'un de sûr qui va pas forcément envoyer des merguez à tout va. Maintenant, faut voir ce que ça va produire avec l'attaque de McDaniels. L'an dernier, ça n'a pas été terrible avec Carr, ni pour le restant de la saison avec les autres QB, mais.
Et Nico, non. Il sourit, il a pris des notes.
Il va intervenir. Ouais.
Non, parce que maintenant j'ai arrêté. Je sais que vous l'aimez pas et que vous l'aimerez jamais, le Jimmy G. Mais non, franchement, je suis pas hypé non plus sur les Raiders. Je pense que vu qu'il vient que pour être Bridge en plus, Bridge QB, ça.
Parce que là, ça parle de prendre un QB directement à la draft en plus.
Mais oui, non. Ouais. Je suis pas sûr. Enfin, si le mec qui prenne, il est bon, ça se trouve, il finit pas la saison. Il a que 2 ans garantie. Il sera backup l'an prochain, ça sera très cher pour backup et après ça dégage quoi. Donc franchement, pareil, je pense que c'est un peu le même principe que pour Carr. C'est un QB2 selon le match-up et puis c'est tout. En fantasy. Ouais.
Mais je pense que Carr coûtera beaucoup plus cher à la draft. Donc à la limite, Garoppolo peut faire partie de ces joueurs que vous prenez en fin de draft et qui peut aider en début de saison. Surtout en dynastie, si vous draftez des rookies très très hypés. Et que c'est des super flex. Souvent, des joueurs comme Jimmy Garoppolo et comme ceux qu'on va voir dans une minute, s'ils startent, peuvent être utiles en début de saison. Et les joueurs qu'on va voir après, justement, il y en a 3. Taylor Heinicke qui a signé à Atlanta, Baker Mayfield aux Buccaneers et Jacoby Brissett aux Commanders. À mon avis,
je ne sais pas c'est qui a Baker Mayfield, mais je suis pressé d'entendre ce qu'il va dire.
Ça va être bon encore. Hein, voilà, c'est pour moi voilà.
Lequel de ces QB a le plus de chances de starter week 1 ou pendant la saison? Et honneur à Lucho encore une fois, parce que dans notre dynastie, il vient de faire un trade pour obtenir Baker Mayfield. Commence avec Baker Mayfield.
Non, mais après, il faut situer le contexte.
J'ai très bien le contexte.
Non. Ici, c'est no context fantasy. Alors, t'as drafté, t'as fait un trade pour Baker Mayfield. Justifie-toi.
Je l'ai fait parce que pour l'instant, j'ai pas un QB viable. J'ai Kyler Murray qui est blessé pendant un certain temps et on sait pas pour combien de temps il va être blessé pendant la saison. Après, j'ai que du backup. J'ai Winston, j'ai Darnold.
Et Mayfield. Donc, je reformule ma question. Mayfield. Est-ce que tu penses que Mayfield start week 1? Moi, je pense pas.
Moi, je pense que oui.
Ah, oh, si, t'as vu.
Ouais, moi, je pense que oui. Ouais.
Bah, je pense que oui. Après, il va servir de bridge. Non, mais je pense qu'il sera starter. Tu le fais pas venir pour rien, je pense pas.
Moi, je pense qu'ils le font venir pour rien, personnellement.
Il ne faut pas démarrer Kyle Trask.
Kyle Trask n'a rien prouvé. Okay, c'est pas loin à la draft pour avoir un mec starter. Okay. À moins de se séparer d'un mec et de monter.
Ils font démarrer Kyle Trask que si Mayfield se plante. Mais je pense pas qu'il fasse.
Quand tu vois la fin de saison qu'il a fait avec les Rams, bah, c'était pas très glorieux, mais je veux dire, il a été quand même un peu.
Franchement, à part les fins de match un peu stylés.
Il a fait un match.
Pour les Bucks, tu veux faire quoi? Tu vas mettre le...
Pour le coup, non, moi je suis d'accord. Pour le coup, je pense que comme Marc dit, en tout cas, arriver aux essais, ils vont dire c'est lutte ouverte. Mais oui, je vois dans aucun monde possible autre que blessure, mais Mayfield qui ne start pas week 1. Et ce qui est d'ailleurs très triste pour toute l'offense des Tampa, mais je pense que là.
Pour Mike Evans, pour Chris Godwin.
D'abord, ils n'ont que deux quarterbacks hein, en plus, Tampa Bay. Ils n'ont personne d'autre. Hein. C'est Mayfield et Kyle Trask.
Ouais, c'est tout.
Donc, si Mayfield il se pète un truc ou quoi que ce soit, je veux dire. Et
Kyle Trask, il a tellement pas convaincu l'an dernier qu'il était même derrière, je crois, c'était Gabbert, le QB2. Ouais. Et que même dans les garbage, c'est Kyle Trask qui était inactif. Quoi. Donc,
Après, à voir s'ils prennent quelqu'un à la draft là cette année.
Ils sont loin.
Ils sont loin. Ils n'auront pas un joueur capable de starter tout de suite.
Après, je sais pas si c'est prévu, mais peut-être juste pour parler du niveau de Mayfield, il arrive quand même dans la plus belle offense qu'il a eu dans toute sa carrière.
Et c'est un ancien coach à lui en plus, non ? Si je ne me trompe pas, je crois que c'est un ancien coach qu'il a déjà eu en universitaire ou quelque chose comme ça qu'il a ramené, non ?
C'est toi qui t'avais préparé mes filles, ça t'a à dire.
Il me semble que c'est ça. Je n'ai pas été fouillé jusque-là.
Mais, je crois que l'offensive coordinateur, je crois que c'est un ancien coach.
Voilà, j'allais dire, pas le coach, ouais, le coordinateur offensif.
Tu as une putain d'inoffensive, tu as deux receveurs qui te font 1200 yards sur chaque. Enfin, je me dis, si avec cette offense, tu n'arrives pas à la faire avancer. L'année prochaine, il est juste pas eu un effet, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il reste plus haut qu'un quart, pour moi, peut-être, et même qu'un gars au podo, avec l'offense qu'il a, pour moi, tu peux juste pas te foirer.
Il n'a pas le droit. Voilà. Maintenant, il faut voir ce qu'il va faire.
Alors, Taylor Heinicke, on parlait de la NFC South qui est assez faible. Logiquement, encore une fois, sauf si vous allez me corriger, backup de
Desmond Ridder.
Merci, Desmond Ridder. Mais sur ce qu'on a vu justement l'année dernière et tout ça, et puis Atlanta qui a pas mal recruté, hein, qui s'est bien renforcé pendant cette off-season. Heinicke avait fait des résultats plutôt convenables à Washington. Est-ce qu'il peut starter? Est-ce qu'il peut se rendre utile ou améliorer ses coéquipiers à Atlanta?
Moi, je vois plus Ryder démarrer. Après, peut-être que je me trompe. Après, tout dépendra des
coachs. Je pense déjà, ouais, ça va être un peu comme les Buccaneers, en upgradant un peu le niveau. Mais je pense que ça va être au camp. Pour moi, ça va être Desmond Ridder. Et Taylor Heinicke en remplaçant. Parce que bon, Heinicke, en plus... après, il y a la mauvaise gestion de René Vera l'année dernière avec Carson Wentz. Donc bon, il n'a pas fait une saison complète. Hein. Il a été que QB 30, je crois... sur la saison dernière en fantasy, donc bon, faible stat, quoi. Il a qu'une douzaine de touchdowns, un truc comme ça. Mais il a montré qu'il était compétent et surtout qu'en plus il avait le vestiaire avec lui, hein, il a emmené le vestiaire. Ouais. Donc à Atlanta, vu qu'il y a un coach quand même qui est assez intelligent, peut-être que la guerre est ouverte au poste de QB. À l'heure actuelle, pour moi, c'est évident que c'est Ridder qui est titulaire.
En termes de gestion, moi, je serais pas aussi.
Non, je ne parle pas technique. Je parle à l'heure actuelle. Ils ont fait venir Heinicke parce qu'ils ont besoin d'un backup compétent en faisant partir Mariota.
Non, c'est ce que je veux dire.
Voilà.
Tu sais que tu as quelqu'un quand même de compétent derrière.
Voilà, il est compétent quelque part. Il connaît les jeux. Mais après, je pense que dans les camps, ça peut-être qu'il va y avoir discussion.
Ok, et le dernier de la liste, Jacoby Brissett, le journeyman, c'est un peu comme les joueurs de basket, tu sais, où tu les retrouves chaque année dans une équipe différente. Chaque année, il joue à peu près bien, et puis il dégage quand même. Il rejoint les Commanders, où logiquement, il devrait back-up Sam Howell. Mais encore une fois, Sam Howell, il a fait un match jusqu'à maintenant, et à mon avis, ça va être une lutte de camp, et Brissett peut tout à fait la gagner pour Commanders, qui n'étaient pas loin des playoffs l'année dernière et qui ont encore des belles armes en offense.
Oui, mais après, c'est vrai que pour l'instant, c'est Howell qui part tirer dessus, mais il y a de plus en plus de rapports qui disent que pourquoi pas Brissett aurait sa chance, pourquoi pas pour le prendre en le start week one. Franchement, pour les Commanders, il n'y a pas eu de gros mouvements pour l'instant de la free agency. Il y avait une incertitude sur le management, donc forcément, ça je pense que ça aide pas à faire des gros investissements. Mais il n'y a quand même pas du talent à tous les postes de manière extraordinaire. Et peu importe qui va starter, de toute façon, c'est dans le dernier tailleur de la fantasy, quoi.
Ouais.
Peu importe, ils ont une ligne offensive qui est correcte, ok, pourquoi pas. Par contre, derrière, ils ont des armes très limitées à mon sens. En plus, je vois pas très bien ce qu'ils pourraient vraiment viser dans une division qui est quand même assez intéressante avec les Eagles, les Giants, les Cowboys. Enfin, c'est des gens qui vont au moins, qui vont être, je pense, plus forts qu'eux. Donc moi, je pense qu'ils vont tester Howell pour voir, parce que cette année, je pense qu'ils savent qu'ils vont aller nulle part. Et donc, ils vont tester Howell pour savoir si c'est leur QB du futur. Si ça marche absolument pas, au moins, ils ont Brissett pour le mettre à côté, etc. Pourquoi pas. Et l'an prochain, je pense qu'il continuera encore sa carrière de journeyman à aller aider une équipe en backup quelque part. Mais il faut vraiment pas trop miser sur Jacoby cette intersaison.
Ça marche. Eh ben, on verra ça. J'ai l'impression que pour le pauvre Terry McLaurin, c'est quoi? C'est au moins sa cinquième ou sixième saison. Il a toujours des QB minables. Et c'est à se demander, l'année dernière, on se disait Carson Wentz, est-ce que c'est le meilleur QB qu'il ait eu dans sa carrière? Non, on se dit Jacob Brissett, est-ce que ça serait pas le mec le plus fiable qu'il ait eu dans sa carrière? Mais ouais, il a toujours, il a vraiment jamais eu de chance avec son. Pardon?
Il fait ses stats quand même, c'est ça qui
est. Ouais, incroyable. C'est ça qui est fou, c'est que tu dis. Ouais,
si... Pour finir, le meilleur QB, ça a été Heineken, quoi.
Ouais, certainement. Ouais. Ok, on va tourner la page des QB, passer s'intéresser au running back avec quelques chaises musicales. David Montgomery qui arrive aux Lions en provenance de Chicago. Un contrat assez intéressant avec 11 millions garantis. Jamal Williams qui s'en va aux Saints, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Pour essayer de continuer à croquer les touchdowns et peut-être plus si Alvin Kamara était suspendu. Et ensuite, du côté Patriots et Bills, Damien Harris qui s'en va et qui arrive aux Bills pour un contrat d'un an et Devin Singletary qui quitte et rejoint les Texans. Qu'est-ce qu'on pense? Bah, j'avais mis Alex pour le duo Montgomery et Jamal Williams.
Ouais. Alors, David Montgomery, c'est un RB quand même qui était 21 en standard, RB 21 en standard et 24 en PPR. Donc, un certain nombre de points. Maintenant, c'est pas ils ont pas pris, justement, ils ont pris un QB, on va dire middle, exprès pour pouvoir faire ce comité avec DeAndre Swift. Et d'ailleurs, les deux ont des stats quasiment identiques en étant chacun dans une équipe l'année dernière, mais. Des stats identiques, que ce soit en termes de course, que ce soit en termes de yards à la réception, parce qu'ils ont à peu près 300 yards chacun. Donc, c'est vraiment pour faire un truc ISO et vraiment faire un committee. Par contre, David Montgomery, il va falloir quand même remplacer les 17 jambes, comme on disait tout à l'heure, de Jamal Williams pour Détroit. Donc, mais comme l'attaque de Détroit se développe énormément au niveau aérien, ils ont montré quand même beaucoup de choses, beaucoup de promesses l'année dernière, avec Jared Goff toujours là. Donc, du coup, ils se sont dit, c'est pas grave, on ne va pas prendre un gros RB, on en a deux, du même style à peu près, assez costaud physiquement. Et puis, on les fera tourner, et puis, elles deviennent que pour. Quoi. Donc, pour moi, c'est Orange en fantasy, c'est RB2. Hein. De toute façon, je ne serai pas au-dessus ou en dessous d'André Swift, ce sera la pièce, quoi, on verra.
Ouais, pour moi, DeAndre Swift, c'est le gros perdant, le plus gros perdant peut-être de la free agency avec cette signature de Montgomery. Ça prouve que déjà, l'an dernier, ils n'arrivaient pas à lui faire confiance sur le gros rôle. Ils avaient Williams sur la goal line et là, ça va être pareil. Je pense que Montgomery, avec son physique, est capable de faire un rôle très similaire à celui de Jamal Williams. C'est early down back et avec Montgomery un peu en changement de pace. Mais ouais, c'est pour moi le gros perdant.
Ça fait très petite annonce à ce qui déroule en bas. Là.
Je vais mettre un petit coup mon QR code. Ouais.
La Peugeot 205 immatriculée.
Le bon coin. Mais du coup, la transition avec Jamal Williams rejoint ce que tu viens de dire. C'est qu'on n'a pas fait confiance avec DeAndre Swift, ce qui, en termes de fantasy... faisait craquer pour ceux qui possédaient DeAndre Swift, et que du coup, Jamal Williams, il était RB13 en PPR avec ses 17 touchdowns, et donc du coup, lui, il part aux Saints, où là, justement, en fait, ils prennent un fringe, enfin, limite RB1 et RB2, en fait, en termes de fantasy et de rôle même physique sur le terrain, pour aller au Saints, parce que justement, comme disait Nico, avec la suspension, ou toi, concernant Alvin Kamara, la suspension par la NFL par rapport à ce qui s'est passé, fait que du coup, en gros, quand tu prends quelqu'un comme Jamal Williams, eh ben, tu te dis, j'ai un RB2, mais en cas de cata, j'ai un gars qui prend le rôle de RB1. Et ça aussi bien en vrai sur le terrain qu'en fantasy. C'est exactement le même principe. Par contre, derrière, ça va être un peu plus costaud en termes de rotation de running back parce que le RB2, techniquement, je crois, de mémoire, c'est Eno Benjamin des Cardinals. Et sans parler de de leur superstar Taysom Hill slash QB slash Den slash Pro. Mais voilà. Donc pour moi, Jamal Williams, ce serait un joueur assez intéressant en termes de redraft, si on parle de redraft, à prendre.
Ouais.
Moi, je pense que ça va être très, 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 très chiant à jouer, ça. Parce que tu vas miser sur Kamara, ça va être Williams qui va marquer. Tu vas miser sur Williams, c'est Kamara qui va marquer.
Ouais, mais ouais, ça a toujours été, ça a toujours été un peu le cas. C'est le rôle Mark Ingram à l'époque.
Oui, tout à fait.
Bah, je pense qu'il c'est pas comme DeAndre Swift ou Jamal Williams qui pouvait, à la rigueur, se marcher un peu sur les plates-bandes, quoi. Parce qu'Alvin Kamara, pour finir, il a été utilisé vraiment RB slash receveur, quoi. C'est vraiment de par ses compétences, comme un peu Christian McCaffrey, techniquement, c'est un peu le même niveau quand même. Bon, on verra.
Ah, tu peux avoir des snaps avec les deux sur le terrain, hein, franchement.
Ah, bien sûr, exactement.
Bien sûr, c'est pas du tout compatible.
Totalement. En RPO, avec ces deux-là, bien sûr, sans problème.
Et si vous avez Alvin Kamara en dynastie aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ?
On vend.
Je trade. Ah, oui.
On n'en veut plus.
C'est quoi, Marc, tu m'as posé une question lors d'un MySpace, je ne sais plus, d'une émission qu'on avait faite sur la saison précédente, où tu avais fait une question en groupe par rapport à ce qui s'est passé. Quel joueur que vous ne redrafterez plus jamais ? Je t'avais répondu Alvin Kamara, tu vois, à l'époque.
Ouais.
C'est pas possible, ce mec. C'est pas possible. Entre les blessures et comme quoi, c'est un gogol.
Ouais.
C'est... Voilà.
Ok. Nico, Damien Harris qui va rejoindre les Bills. Singletary qui va au Texan, qu'est-ce que tu penses du rôle pour ces deux joueurs-là ? Est-ce qu'il y en a un qui t'intéresse ?
Potentiellement les deux. Alors, du coup, je vais commencer par Singletary, parce que là, pour le coup, je pense qu'il vient vraiment, lui, comme un RB2 derrière Pierce, qui a fait vraiment une belle saison l'an dernier. Mais c'est un RB2 qui est, à mon avis, de très bonne qualité, et qu'on peut un peu comparer à ce que, par exemple, Minnesota a avec Mattison. C'est-à-dire que c'est un joueur qui sera certes un backup, mais qui est clairement draftable en fantasy, en mid-round. C'est un mec qui sera très intéressant et qui a un double rôle, parce qu'il est quand même pas manchot à la passe. Franchement, c'est un mec intéressant. Et du coup, pour rebondir d'ailleurs sur son remplaçant, en fait, à Buffalo, et ben, je pense que Harris, il vient... Pour splitter le start avec James Cook. Ce sera un comité, on est d'accord, il y aura toujours Cook plus Harris plus Nine Hines, mais Hines, on sait qu'il va jouer que la passe, et Harris, il a plus de potentiel, je pense, en goal line carry que Cook. C'est un mec qui est meilleur sur les inside run, à mon avis, et en termes de rôle entre les deux, franchement, équivalent. Et pour le coup, j'assimile plutôt le rôle, le split Harris Cook à ce qu'on avait l'an dernier entre Zeke et Pollard. C'est deux mecs qui vont être bons, c'est deux mecs qui vont être relevant en fantasy. Et dans les pas forcément sur les, ce sera pas des stars en running back, donc vous les prenez pas au premier tour, mais tour 4, 5, 6 là par là. Ces mecs-là, je suis d'accord, il faudra un peu faire tourner, enfin un peu jeter la pièce au début de saison, mais ça, ce sera des mecs qui seront valuable en fantasy.
Ouais, moi j'aime bien Harris au Bills, perso, grosse offense et un joueur qui est beaucoup plus lourd que Singletary, et ils n'avaient pas trop ce profil-là ces dernières années. C'était souvent Josh Allen qui devait faire le bourrin quand c'était le cas, et justement avec James Cook qui est plus le mec rapide, le mec versatile et tout à la passe. Et le fait que Damien Harris, à mon avis, il va passer un peu sous les radars dans les drafts.
Il a un petit contrat, il est juste sur un an. Ça va pas du tout être un blockbuster.
C'est ça. Et à mon avis, c'est le genre de joueur à prendre vraiment dans la deuxième moitié des drafts cette année.
Pour l'analogie avec les Saints, c'est un peu le retour de Ingram Kamara, quoi. Cook étant Kamara qui fait un peu tout, et Harris qui va en plein milieu et qui va réussir à faire des yards, parce qu'il c'est un mec qui est bon quand même.
T'es gentil pour Cook là.
Potentiellement dans leur tête, dans leur idéal, disons.
Ouais, voilà, c'est ça.
Donc toi, tu vois Cook quand même en RB1.
En usage, non, ça dépend ce que tu qualifies de RB1.
Tu peux pas savoir, Bills. Un bis, c'est pareil.
Non, mais tu l'arrives, mais toi, tu vois.
C'est
clair, hein.
Lucho, pour savoir quelle offre il va envoyer. Mais...
ouais, tu vois.
M'engueule pas, Lucho.
Allez, pour finir avec les running backs, signature assez intéressante de Rashad Penny aux Eagles. Alors, les Eagles ont fait signer aujourd'hui une prolongation à Jalen Hurts, qui est en fait le QB le plus payé de la ligue. Je crois que c'est 250 millions sur 5 ans, dont 100, 170 ou 180 de garantie.
255, donc, juste pour être au-dessus de Mahomes.
Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ils ont pas beaucoup de place pour signer des agents libres. Et ils ont pris Rashad Penny pour un contrat d'un an qui coûte quasiment rien. Je crois que c'est 1 million et quelques, 600 000 garanties, un truc comme ça. Enfin, c'est quasiment rien. Et Penny qui, depuis 2021, parmi les running backs qui ont plus de 100 carries, je crois, il est genre premier en yard par carry, en yard after contact par carry, en expected yards, enfin yards over expected, enfin toutes les plein de stats avancées. Rashad Penny est en tête. Donc le seul truc qui peut lui arriver, c'est de se blesser, parce que ça lui est arrivé beaucoup. Enfin, mais sinon, je trouve que c'est une signature super intéressante. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nico?
Je suis d'accord, franchement, il arrive pour être, je pense, titulaire. Et c'est probablement le mec le plus talentueux du backfield de Philly. Il y aura un comité encore, parce que Gainwell est fort. Ton petit chouchou, Trey Sermon, est toujours là.
Comme disait quelqu'un, tu conserves pas un joueur que tu n'as jamais fait jouer, tu ne le conserves pas comme ça si tu n'as pas vu quelque chose qui t'intéresse.
Voilà, exactement. Mais non, après, je pense qu'il va être titulaire. En fait, juste, lui, ça va être comme avec les Seahawks, hein, pour Penny. S'il est en bonne santé, il sera titulaire et performant. Et en plus, vu qu'il y a la double menace avec Hurts et des cibles à côté, il peut avoir des espaces. La ligne tient la route et je pense qu'ils vont se renforcer dans ce secteur-là aussi. Franchement, c'est un style pour eux en termes de tarifs sur la free agency. Et je ne sais pas si ça va passer sous les radars en fantasy. On a quand même une petite musique qui commence à le faire monter dans les rankings de draft. Mais ça peut être une bonne affaire, même dans les tours 4, 5, 6.
Ah, parce que pour toi, c'est un RB1 ?
Pardon ?
Je dis, pour toi, c'est un RB1 ?
Un RB1 fantasy ?
Ouais.
C'est en bonne santé, oui. En bonne santé, oui, il a toujours été. Quand il est sur le terrain, ça l'est.
Ben, ça l'était pour les Seahawks. Le problème, c'est qu'il se blesse trop.
Ah, oui, voilà, c'est ça.
Tu vas jouer, c'est ça le truc.
Il fait 6 matchs de moyenne par saison en ce moment.
Ouais, comme tous les running backs des Seahawks à l'époque, alors que les Eagles restaient un peu plus en bonne santé. Est-ce qu'il y a un truc Tu vois, Sanders, il n'a pas été tellement en galère. Gainwell joue quasiment toute la saison aussi. Je pense que ça peut valoir le flyer sur un tour.
En tout cas, il a une top oil, donc ça, c'est sûr. Voilà.
Est-ce que vous pensez que les Eagles pourraient être un des candidats pour drafter Bijan Robinson ou éventuellement un autre running back un peu plus tard?
Un peu plus tard, je pense.
Ta question, tu parles pour le premier tour?
Pour Bijan, ouais, ou alors éventuellement plus tard un autre running back.
Je pense qu'ils sont trop intelligents pour aller prendre un running back haut.
Déjà, ce n'est pas le principe du GM des Eagles. Ouais. Lui, c'est O-line ou defensive line. Lui, c'est les lignes. Des deux côtés du ballon.
Il n'a pas tort.
Et il a raison, d'ailleurs. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que les deux lignes sont incroyables. Mais maintenant, après, oui, peut-être qu'ils drafteront peut-être un running back, mais ça sera au quatrième tour. Quoi,
ouais, ok. Parfait. Alors, passons. Bah, décidément, Nico, encore une fois, ça va être pour toi. Le nouveau visage des Patriots. Alors, ils ont recruté Mike Gesicki, le tight end, et Juju Smith-Schuster avec un contrat équivalent à celui que reçoit Jacoby Meyers aux Raiders. Ils ont tradé Jonnu Smith qui, du coup, lui, pour le coup, j'ai rien compris à ce qu'il est venu faire aux Patriots, mais il part à Atlanta. Il fait partie du lourd recrutement des Falcons. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Est-ce que Mac Jones, est-ce que ça va être d'abord le starter? Est-ce que Mac Jones, est-ce qu'ils vont lui libérer un peu la bride? Qu'est-ce qui va se passer autour de ça? Est-ce que un de ces joueurs-là t'intéresse pour la fantasy?
Alors, juste pour préambule hors fantasy, je vois pas comment l'attaque peut être pire cette année qu'avec Patricia l'an dernier. Donc,
moi, je pense pas que parce que j'aimais bien recevoir tous tes messages les lundis matins de craquage.
Bon, exactement.
Mais ils justement, ont mis un coach offensif. Hein.
Voilà, ils ont mis un mec qui déjà connaît Mac Jones et qui est un peu plus offensif que Patricia. Et après sur les cibles, je pense pas qu'il y ait une révolution extrême entre les receveurs, entre Jacoby Myers et Juju Smith-Schuster. C'est des mecs qui sont talentueux, c'est pas des stars non plus. C'est des mecs qui sont, moi je pense pas qu'il y ait un vrai receveur numéro un là-dedans. Juju, pour parler juste des Patriots qui sont arrivés, bon, des arrivées chez les Patriots, Juju, ça va être un mec qui sera utilisé. C'est probablement le mec le plus talentueux, malgré tout, quand même, c'est un peu dommage, mais qui sera le plus utilisé en termes de receveur. Il faut le drafter, mais pas trop, tant qu'on ne sait pas à quoi l'attaque va ressembler. Il y a des incertitudes sur la ligne offensive, il y a des incertitudes sur le quarterback, sur comment O'Brien va revenir en termes de coaching. Voilà, donc c'est faut être un peu attentif à ça. Sur Gesicki en tight end, je pense que le projet n'est pas vraiment de le faire jouer en tight end parce qu'on a Hunter Henry. Alors Hunter Henry, vu son cap, peut-être qu'il peut se faire couper post-draft, ce serait pas étonnant, mais il va être aussi un peu sur les mêmes zones et en red zone, si tant est qu'on y arrive. Donc c'est des mecs qui ont du talent, hein. c'est pas le sujet. Je trouve qu'on les surpaye un peu. Est-ce que le fait de les surpayer veut dire qu'ils auront un vrai rôle? Peut-être. J'en suis pas convaincu. En tout cas, il n'y a pas de star fantasy là-dedans à mon sens. Au niveau des départs, Myers aux Riders, je comprends pas sa signature pour lui de son côté, parce que il arrive dans une attaque où il va être, je pense, troisième option dans le meilleur, enfin, à mon sens. Adam, c'est indiscutable.
Sauf si Renfro partait, mais.
Alors, sauf si Renfro partait, mais à mon avis, donc voilà, Adam, c'est indiscutable numéro un. Renfro et lui vont se partager le reste avec deux. Des tight ends derrière et un gros joueur.
Ouais, alors juste, excuse-moi, je te coupe, mais le seul truc qui peut être intéressant pour Meyer, c'est justement le départ de Darren Waller et le départ involontaire
de Moreau.
Donc du coup, je sais pas trop qui ils ont en tight end, mais
ils ont signé Austin Hooper et O.J. Ward. Alors O.J. Ward, on sait que ça
ouais,
va,
voilà.
Mais bon, c'est pour des tight ends qui sont plus bloqueurs que receveurs, ouais, on est d'accord. Ouais.
Et McCollin, c'est parti. McCollins, les Raiders, c'est parti.
Mais on sait que, c'est ce que disait tout à l'heure Lucho sur Garoppolo, on n'est pas sûr que ce soit une attaque vraiment passe heavy. Et si en plus Garoppolo est là que pour un petit temps et que c'est un rookie qui prend le poste, on ne sait pas comment ça va être. Donc Myers, je ne suis pas convaincu, je pense qu'il faut vraiment le laisser sur le radar receveur 2, receveur 3 de son équipe, donc plutôt receveur 3, 4 en fantasy dans vos équipes respectives. Voilà. Et alors Jonnu Smith, alors je pense, je te disais tout à l'heure Marc, je ne sais pas trop ce qu'il est venu faire à New England, je pense que lui n'a toujours pas compris pourquoi il était venu à New England, vu comment il a été utilisé. Et si, il a été bloqueur, et là je pense que juste il va être bloqueur, et je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour lui à Atlanta, et je pense que ça peut être du coup une bonne idée pour Kyle Pitts. Parce qu'il y aura un tight end en fait qui vont clairement switcher Pitts en receveur, en grand receveur, et Jonnu en bloqueur, en vrai tight end de bout de ligne. Et voilà. Mais je pense que son rôle sera minime et que c'est vraiment pas très intéressant. Déjà dans une attaque à deux tight ends, en général, c'est pas très intéressant d'avoir un des deux parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume, surtout avec un certitude de quarterback. Mais alors, quand il y a Kyle Pitts, je pense que c'est pas
encore. Jonnu Smith, la bonne nouvelle pour Tyler Allgeier, le running back.
Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde sauf lui. Quoi, mais...
Il voit la bidon arriver en ligne, il est content. Quoi.
Ok, parfait. Moi, juste un petit mot sur Juju. J'ai l'impression que c'est le joueur qui est un peu trop populaire par rapport à d'abord sa très bonne deuxième année, mais aussi par rapport à son profil social en ligne. Et que du coup les gens ils le kiffent bien, et je trouve que il est toujours drafté trop tôt quelle que soit la saison par rapport à ses performances sur le terrain. Donc je pense que même là au Pats,
entre les fans des Pats et les fans de Juju, il y aura forcément un mec qui va aller chercher Juju un ou deux rounds trop tôt par rapport à,
ah oui,
à
non, ce mais que ça, j'aimerais c'est faire. C'est en mid-round, hein, Juju, il ne faut pas... Ouais. Ouais, clairement.
Après, j'ai une question. Entre Meyers et Juju, tu préfères qui, ça, sincèrement ?
À quel niveau ?
En fantasy. Niveau fantasy, au niveau fantasy.
Ah, ouais, au niveau fantasy cette année, moi, Juju.
Non, pas forcément. Ouais, pas forcément cette année, mais...
pour ta dynastie.
Non, parce que je l'ai traîné. Mais le truc, c'est que, tu vois, meilleur, je vois meilleur, c'est quand même meilleur que Juju d'un point de vue fantasy, non?
Ouais, peut-être sur le papier, mais le problème, c'est avec le rôle, parce que, comme dit Nico, il y a beaucoup de...
Ouais, il y a beaucoup de monde à
la... Beaucoup de monde aux Raiders, pas grand monde aux Pats. Juju, il a juste à battre Davante Parker et Kendry Gourne.
Et le contrat de Davante Adams, il est plein d'incentives et tout. Ouais. À mon avis, si tu ne le nourris pas comme il faut, exactement. Sachant qu'en plus, on est quand même passé de Derek Carr à Jimmy Garoppolo. Donc, moi, j'adore Jimmy Garoppolo, mais pour des systèmes de jeu bien spécifiques. Mais bon, Davante Adams, pour moi, ce n'est pas la bonne cible pour Jimmy Garoppolo. Après, ça, c'est une autre histoire. Mais il faut l'alimenter, hein, Davante Adams. Donc,
C'est clair. Ouais, donc c'est plus ça pour moi.
C'est vrai que je ne comprends pas trop le choix de Meyers de partir là-bas. En fait.
Bah c'est toujours. Ils refont les Pats bis là-bas.
C'est ça. 7 joueurs, je crois. Il y a eu 7 arrivées des Patriots.
Oui, je crois que c'est ça.
Plus les staffs aussi, parce que là, c'est pas un même
oui. Ah oui, non, mais le staff, c'est en entier. Mais... Ouais,
c'est... Ils ont même pris le concierge.
Il manquait Delman encore.
Et ils ont pris Amendola en coach des receveurs.
Ah, bah oui, c'est ça.
Ouais, Amendola, exactement.
Ok, un mot sur les Giants, après avoir re-signé à la dernière seconde Daniel Jones pour un contrat assez conséquent, il s'agissait de lui donner de l'aide sur le terrain par rapport à ce qui était certainement la pire escouade de receveurs de la ligue l'année dernière. Ils ont fait un trade pour Darren Waller, le tight end, assez talentueux, très talentueux, mais très souvent blessé aux Raiders ces dernières saisons, et la menace verticale qu'ils n'avaient pas vraiment l'année dernière, Paris Campbell, qui vient des Colts, pour potentiellement aider justement Daniel Jones. Alors, je crois que j'avais mis Alex pour Darren Waller, et Lucho pour Paris Campbell, parce que j'ai l'impression que Paris Campbell, c'est un joueur que tu aimes bien, toi, Lucho, tu m'en parles à chaque fois. Donc ouais, Alex
comme... fois, mais on en reparlera.
Ah, je ne justifie pas, tu adores Paris Campbell, je te connais. Alors Alex, est-ce que tu crois en Waller ? Est-ce que tu penses que ça peut aider les Giants à se diversifier un petit peu et à baisser un peu la dépendance sur Barkley ? Et qu'est-ce que ça veut dire pour la fantasy ?
Alors, je vais faire en deux temps. Le premier temps purement tactique. S'il est venu, ce n'est pas parce que c'est pour faire des scores, pour faire du chiffre en termes de TD ou quoi que ce soit. C'est surtout que c'est un gars qui a la tête extrêmement bien faite maintenant et que du coup, il a l'expérience et qu'il est fait juste pour former Billinger, tout simplement, qui a été drafté au 4e round l'année dernière. Et c'est pour qu'il soit en pleine formation dans son année sophomore à Billinger. Parce que Dabble, qui est un ancien coach de tight end, il aime bien les packages à deux tight end, et notamment en RPO, spread offense. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il a fait venir quelqu'un de compétent comme Darren Waller, qui a un peu de bouteille, parce qu'il a 30 ans, Darren Waller. Le problème, c'est qu'il a 30 ans, avec un gros historique physique de blessures. Donc, après, en termes de fantasy, maintenant, c'est clair qu'il faut... Moi, je ne le prends pas en tight end 1, quoi, ça, c'est évident. J'ai trop peur. Moi, je le prendrais vraiment pour faire ma rotation en espérant qu'il y a un upside, je ne sais pas. Vu les receveurs qu'il y avait aux Giants, bon, ils ont fait venir donc Paris Campbell, tu en parlais tout à l'heure, mais je ne sais pas. Moi, je ne suis pas forcément convaincu de l'apport point en termes de fantasy.
Ouais, il faudra qu'il se développe comme l'arme principale dans le jeu court, milieu, qu'ils n'avaient pas l'année dernière, parce qu'ils ont... Des petits joueurs comme Wandale Robinson, etc. Mais ouais, il faudra qu'il trouve ce rôle-là pour être compétent et surtout qu'il ne se reblesse pas.
C'est surtout ça.
Lucho, Paris Campbell ?
C'est un petit peu le même discours, dans le sens où c'est quand même un gars qui est sujet à blessure quand même assez fréquemment. Mais je pense que ça peut être une bonne signature pour les Giants. Comme tu disais tout à l'heure, il va apporter de la verticalité. Et il va apporter quelque chose qu'ils n'ont pas forcément au niveau de la vitesse et au niveau de la vélocité. Moi, j'ai toujours plutôt apprécié. Après, je trouve qu'il n'a pas été assez utilisé aux Colts. Parce que déjà, il y avait Pittman. Mais après, c'est surtout qu'il n'y avait pas forcément des QB intéressants. Mais faut voir là avec, avec le système offensif des Giants, je pense qu'il peut être, il peut être intéressant. C'est quelqu'un qu'on doit garder sous le radar, je pense, parce qu'il peut, il peut prouver aux Giants ce qu'il a pas prouvé aux Colts.
Ah, tu vois que tu l'aimes bien.
Oui, je l'aime bien. Non, après, je pense qu'il peut être intéressant parce qu'il a quand même fait des scores plutôt, plutôt bons l'an dernier quand il a, ouais, quand il a été visé. Il a eu quand même des bonnes stats quand il a été utilisé correctement, donc ça a à voir. Je pense qu'il sera, il sera peut-être la première cible. Après, bon, il y a quand même du monde. Hein. Ils ont recruté quand même du monde à côté. Enfin, ils ont déjà du monde à côté, mais là, le fait d'avoir re-signé Jones, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Après, c'est, il est là que pour un an, hein, donc c'est à lui aussi de prouver ce qu'il peut faire.
Yes. À l'heure actuelle, il y a 13 receveurs aux Giants.
Ouais, c'est un truc de fou. Et pourtant, il y a, je te donne en mille d'essayer d'en citer 5 de mémoire, de tête.
Bah, il y a la superstar Hodges, ouais, à la fin de saison.
Non, mais il a fait une très bonne fin de saison, Hodges.
Et Jameson Crowder.
Après, ça va sûrement aller drafter un receveur.
Ouais, j'espère. Pour la petite histoire, pour avoir Waller, les Giants ont tradé leur un troisième round, et c'est le troisième round qu'ils ont obtenu quand ils ont tradé Kadarius Toney plus tôt dans la saison. Donc ça fait un peu un trade d'Aaron Waller pour Kadarius Toney. Au niveau assets. Alors, la suite. Les Texans et les Cowboys. Les Texans qui vont reconstruire avec un nouveau QB, ils ont signé Dalton Schultz, qui montre que le marché pour les Titans est vraiment terrible parce que c'est le meilleur Titan sur le marché ce printemps et il a obtenu 9 millions pour un an. Robert Woods, le vétéran, qui signe pour 10 millions, lui. Surprenant. Et Brandin Cooks qui fait, enfin pas le chemin inverse, mais le chemin inverse de Dalton Schultz en tout cas, qui lui va rejoindre les Cowboys. Et c'est ça, c'est peut-être le plus intéressant des trois. Parce que l'année dernière, ils avaient eu du mal à remplacer Amari Cooper. Donc, qu'est-ce qu'on en pense ? D'abord pour les Texans et l'offense des Texans, on avait parlé un petit peu de Singletary tout à l'heure, mais au niveau des receveurs, départ de Brandin Cooks, arrivée de Schultz et de Woods, Alex.
Super off-season pour l'instant des Texans. Je trouve ça super intelligent. Et comme on parle de Robert Woods, c'est là l'intelligence de son recrutement, c'est l'expérience. C'est exactement comme les Panthers avec Adam Thielen. On est sur la venue d'un receveur quand même d'expérience pour encadrer un QB rookie, parce que ce sera un QB qui sera pris évidemment. Et Robert Woods, il sort quand même de sa pire saison de sa carrière aux Titans. Il faut dire que c'est pas compliqué. Il y a eu quand même 3 QB dont le magicien Malik Willis. Donc pour recevoir des ballons c'était un peu complexe, plus le fait qu'il soit sorti de blessure en 2021-22 avec les Rams, donc c'est fait que la saison a été vraiment un peu pourrie. Maintenant, blessure, saison basse et son âge, 31 ans, bon, je me dis que oui, en effet, c'est l'expérience qui compte. Maintenant, c'est quand même un range de receveurs, je pense 4, 5, peut-être 4, à l'heure actuelle, Woods. Je ne pense pas qu'il faille demander beaucoup plus parce qu'il faudra remplacer Brandin Cooks en termes de stats. Et Brandin Cooks, il était quand même bien au-dessus. Quoi. Donc, moi, je pense que c'est. Pour l'instant, il est WR en depth chart, il est égalité avec Nico Collins. Maintenant, pour moi, lui, il apporte l'expérience, il va former Nico Collins en termes de talent et jeunesse, évidemment, parce qu'il a été drafté il y a très peu de temps. Et pour moi, est le receveur à prendre en fantasy.
Ouais. Il faudra surveiller si John Mechie peut jouer aussi, s'il est en forme. Il avait raté son année rookie.
C'est quoi, il avait leucémie ?
Ouais.
Il revient de sa leucémie, c'est bon, c'est validé, je crois.
Ouais. Bah, logiquement, il revient, ouais, donc il faut voir dans quel. Voilà, s'il est à 100%, il peut aussi se forger un rôle là-dedans.
Nico Kolinjovici, voilà, est formé par Robert Woods avec QB rookie, quoi. Voilà.
Cooks à Dallas, pareil. Moi, j'aime bien Lucho. Qu'est-ce que tu penses de ça et pour le fait,
Cooks à Dallas, je pense que ça peut être une bonne signature pour Dallas, et y compris pour Cooks. Hein. Dallas, au niveau offensif, c'est quand même assez costaud. Je pense que ça va ramener une menace supplémentaire à côté de CeeDee Lamb. Donc, non, je pense que c'est très intéressant. Maintenant, d'un point de vue fantasy, si on parle de Dynasty, c'est sûr qu'il a encore, enfin, il est plutôt sur la fin que sur le début de carrière, mais c'est quelqu'un qui va pouvoir scorer quand même pas mal. Il risque d'être ciblé aussi en red zone, je pense. Donc, non, ça à surveiller. Je pense que c'est une bonne signature des deux côtés. Soit pour Cooks comme pour les Cowboys, ça va être intéressant.
Ouais, clairement, pour Cook, c'est parfait parce qu'il est tradé à un contender. Pour Dak Prescott, ça lui donne un autre profil de receveur pour être moins dépendant de l'un. Il faudra voir si Michael Gallup revient un petit peu du mal à se remettre de sa blessure.
Alors, ils veulent plus impliquer Gallup dans l'offense. Bon, après, ça, c'est
pas. Ouais, ça fait 5 ans que j'entends ça. Oui, ouais, Michael Gallup va être impliqué.
Le perdant, c'est Michael Gallup dans l'histoire.
Ah oui, bah, clairement.
Ouais. C'est clair. Ok, alors maintenant, pour finir en beauté, un mouvement qui n'est pas encore arrivé. d'abord, alors, un trade qui est arrivé, c'est Elijah Moore qui était complètement, après une bonne année rookie, sorti des plans des Jets l'année dernière, qui a été tradé aux Browns. Potentiellement intéressant, hein, c'est arrivé aux Browns avec Deshaun Watson qui va faire pour la première fois la vraie intersaison et starter. Donc il faudra voir comment à quel niveau il s'inscrit dans la depth chart avec les Donovan Peoples-Jones, avec tous les autres joueurs qui ont joué receveur, avec le départ de Kareem Hunt aussi. Les Browns, à mon avis, ça va être une équipe à suivre parce qu'il va y avoir pas mal de ballons à redistribuer et il va y avoir quelques pépites qui vont en sortir, mais c'était plus pour parler des Jets et d'Aaron Rodgers qui n'est toujours pas aux Jets, mais apparemment c'est toujours dans les plans et ça pourrait arriver le jour de la draft, enfin pendant la draft, et en tout cas si ça arrive, à mon avis ça va redistribuer plein de choses parce que ça va pas être juste à Aaron Rodgers, il va y avoir pas mal de joueurs dans l'histoire. Mais Alex, toi qui es le spécialiste Aaron Rodgers, est-ce que d'abord tu penses qu'il va aller aux Jets? S'il va aux Jets, qu'est-ce que ça fait pour l'offense des Packers et pour Jordan Love? Et s'il va aux Jets, qu'est-ce que ça fait pour les Jets aussi? Triple question.
On va sentir un peu d'émotion dans la voix, là, je le sens.
Non, non, alors, moi, ça fait... Ça, déjà,
je vais le mettre en grand.
Je vais dire à tout le monde, ça fait presque 3 ans que je dis que je veux voir ailleurs Rodgers, hein, déjà. Donc, presque ce début de ses caprices, quoi. Avant qu'il fasse vraiment des caprices de diva... Après, par rapport à la structuration du contrat ou autre, mais non. Moi, personnellement, je veux que Rodgers parte et je suis bien content qu'il le fasse. Maintenant, où et surtout, quelle contrepartie en termes de pick de draft. Moi, c'est surtout que je veux pas qu'on soit lésé à ce niveau-là, quand même, un minimum, qu'on puisse limite si on n'a pas de premier tour. Mais au moins d'avoir un deuxième, un troisième peut-être, plusieurs, genre deux troisièmes et un quatrième. Mais donc en termes d'impact pour les Packers, de toute façon à l'heure actuelle, je pense ça se sent que c'est Jordan Love qui est QB. Quand on voit les réseaux sociaux, quand on voit la façon dont Gutekunst parle, on le sent que c'est établi. Et que limite, bon, bah, si Rodgers, en fait, ça plante au niveau du transfert, ça pourrait aller carrément sur la retraite, hein, et pas du tout, évidemment, rester sur le banc derrière Jordan Love. Donc ça, puisqu'on a pris en plus comme QB remplaçant Tyler Boyd derrière Jordan Love. Après, sur les Jets, évidemment que du coup, ça fait passer un step l'équipe. Allez. Je ne sais pas si on peut parler de Super Bowl contender, enfin de comment on dit, de possible. Ouais, voilà. Mais en tout cas, en termes de fantasy, pour les receveurs, pour Garrett Wilson, ce qu'il a fait comme saison, alors qu'il a eu une saison un peu complexe en termes de QB, ça va être assez important. Donc non, c'est en termes de fantasy, avec le retour en plus de leur running back de blessure, ça va être les Jets en fantasy, ça va être très intéressant. Moi, la seule question que je me pose après, c'est ils ont intérêt à le faire, je pense, c'est drafter en offensive line cette année, parce qu'ils ont une ligne un peu fragile ou pas top. Donc voilà. Donc en termes de fantasy, les Jets, ça va être assez intéressant. Les Packers, Jordan Love, on l'a vu sur deux matchs véritablement. Donc on n'a aucune idée. On n'est pas là au camp d'entraînement caché à voir comment ça se passe avec Watson ou autre. Donc on verra. Et les Jaimour pour son transfert des Jets, qui est un transfert un peu surprise quand même, quelque part, parce que l'ancien pensionnaire de Ole Miss était quand même un gros prospect. Il va devoir faire justement sa place face à David Bell et People Jones derrière Mary Cooper en tant que WR2. Et les Jaimour, ça peut être l'upside total en termes de fantasy.
Libérer les Jaimour.
De le prendre très bas en termes de fantasy en redraft, de le trader pour pas très cher. Et ça peut être vraiment intéressant parce que là aussi, c'est un peu comme les Giants. Il y a quand même 13 receveurs et 4 tight ends. Hein, donc des tight ends qui en plus, comme Njoku, font partie du système offensif de manière assez importante. Donc il y aura bataille. Il va falloir faire sa place. Mais il y a moyen.
T'as quand même un corps de receveur super intéressant.
Ah bah, une offense intéressante, franchement, ouais. Sur le papier,
elle est marrante. Les Browns, ça donne envie. Hein.
Mais le problème avec les Browns, c'est qu'on a toujours une certaine hype concernant
début de saison.
Les arrivées et le début de saison. Et on se dit, mais comment ça se fait que ça clique pas, quoi. C'est comme. On n'en parle pas en termes de fantasy, parce que. Mais au niveau de la défense, il y avait quand même des gros défenseurs aux Browns et ça ne marche pas. Bon. C'est moyen. C'est comme 11, c'est bien, mais pas top.
Parfait. Eh ben, on a fait le tour des principaux transferts. Il y en a dont on n'a pas parlé. Il y a le départ de Zeke Elliott, coupé par Dallas. Donc, potentiellement intéressant pour Pollard, mais il faut voir ce que fait... Zeke Elliott, je ne sais pas s'il peut revenir à Dallas sur un contrat différent ou pas.
En signant Ronald Jones en plus.
Hein ?
Ils ont signé Ronald Jones en plus.
Ronald Jones. Ok, je ne sais pas si légalement il peut y retourner ou pas, c'est ça que je demandais. Après avoir été cut.
Aptine, tu veux le voir où, Zeke Elliott ? Tu veux le voir atterrir où ?
Oh, franchement, ça fait un moment que.
Pas de retour de Zeke,
ouais, pas de retour dessus. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais pour le coup, je n'ai vraiment aucune idée. Pour moi, les personnes qui le prennent, ils doivent vraiment être en galère parce que je ne vois pas du tout ce qu'il peut apporter à une équipe qui joue vraiment quelque chose, en fait.
Ouais.
Donc à part prendre une diva qui va prendre un gros contrat dans une équipe, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr du move.
Il y a d'autres moves.
C'est probablement pour ça qu'il n'est pas encore signé, c'est qu'il doit demander trop cher par rapport à ce qu'il apporte vraiment, quoi.
Ouais.
Est-ce que tu veux un mec comme ça aussi dans ton équipe avec ses antiques, je sais pas comment ça se dit, mais
ouais, d'autres moves dont on n'a pas parlé, mais rapidement, Allen Lazard aux Jets, Sam Darnold à San Francisco, Odell à Baltimore, qui va probablement. D'ailleurs, Baltimore, pendant qu'on faisait l'émission, j'ai vu ils ont proposé un contrat de 200 millions à Lamar Jackson.
Ouais, mais c'est pas un QB, pas ça.
On y met. Te lance pas là-dedans dès la première émission. Michael Thomas, on en a parlé. Il y en avait un autre que j'avais en tête, mais je sais plus. Donc tant pis. Est-ce que on a une question ? Est-ce qu'on est sûr que les Texans vont prendre un QB au premier tour ?
C'était Michael Hardman dont tu voulais parler peut-être ?
Non, mais effectivement, aux Jets aussi. Est-ce que vous êtes sûr que les Texans vont prendre un QB au premier tour ?
Oui.
C'est la seule bonne réponse. Hein.
Franchement, s'ils n'en prennent pas, je ne sais pas ce qu'ils font.
Là, tout à l'heure, il y a eu un leak. Apparemment, c'est Young, le quarterback rookie, qui va se présenter à la draft, qui aurait annulé ses visites pré-draft. Mmh. Il a rencontré les Panthers et les Texans. Donc, peu importe, les Texans, de toute façon, ils vont rester soit en 2, soit ils vont monter en 1, à mon avis. Donc, ça veut dire qu'il doit être sûr d'être pris soit en 1, soit en 2. Ça sent quand même le QB et pour les Texans et pour les Panthers au premier tour.
Ouais.
Même si le meilleur joueur de la draft, c'est pas un QB. Mais non. Bon, ça après.
C'est une autre histoire.
Ouais. Ça l'est jamais. Enfin, ça l'est rarement.
On a Zinkou qui nous dit il faut pas rêver, Alex. Il n'a pas écrit Alex, mais je le dis. Si le trade capote, Rodgers ne se privera pas de se pointer au training camp des Packers pour les faire.
Oui, ça bien sûr, mais c'est pas grave. On s'en fiche.
Et très bon point aussi de Zinkou qui disait que Zeke n'est pas une diva, ce qui est vrai.
Et alors, juste avant de se quitter, puisque Aptine, tu t'es réveillé de ta mini-sieste, ta micro-sieste de tout à l'heure, il y a une équipe dont on n'a pas parlé du tout. C'est Pittsburgh. Qu'est-ce qu'ils font sur le marché Pittsburgh?
Ils ont fait des mauvais
trades. On n'a pas fait des gros des gros trades, mais c'est que des trades intelligents, défense, ligne offensive. Moi, je suis très content de ce qu'on fait pour l'instant.
Ok. Et tu penses que Diontae Johnson va marquer des touchdowns l'année prochaine, je veux dire. Et pourrait être.
Il en mettra peut-être un ou deux, mais c'est tout, quoi.
Ouais. Moi, je pense que ça va être le genre de joueur qui va passer un peu pareil sous les radars après une saison super décevante. Les gens vont se dire, moi je drafte plus Diontae Johnson. Comme Pittsburgh n'a pas fait de gros coups d'éclat, il n'y a pas un nouveau QB, il n'y a pas un truc, ils vont se dire, ça va être pareil. Et en fait, tu regardes les stats de Johnson et tu rajoutes ne serait-ce que 4-5 touchdowns et t'as un monstre, quoi.
Ouais, mais il ne faut pas oublier l'éclosion qu'on va avoir aussi côté. Côté, j'ai oublié son nom, comme il s'appelle.
Kent.
Ouais.
Ah oui.
Et le futur receveur drafté au 4e ou 5e tour annuel,
qui va finir
très bon.
Exactement. Ok, parfait les gars. On allait parler vite fait des 4-5 profils rookies, mais bon, on va faire ça une autre fois, juste avant la draft. D'ailleurs, on va voir si on ne fait pas une petite émission comme on avait fait l'année dernière sur les principaux prospects de draft, juste avant, pour se mettre en jambes et se familiariser avec les noms à suivre. C'est quand la draft? C'est 27, 28, 29,
je crois. Ouais.
Dernier week-end, dernier jeudi du mois d'avril.
Donc, d'accord. Donc, on a une dizaine de jours, quoi. Mm-hmm. Donc, on va voir si on peut organiser ça. Et voilà. Un mot de la fin.
On peut faire un épisode sur les playoffs NBA, hein. Je pense que c'est bien aussi.
Ouais.
C'est intéressant.
J'ai regardé 3 minutes hier. C'est mes 3 premières minutes de basket de la saison.
Vous regardez les Knicks?
Non, je n'ai pas regardé les Knicks. Moi, je les regarde, mais ils sportent. Donc, à chaque fois que je les regarde, ils sont nuls. Ok, si on a fait le tour. Merci beaucoup, les gars, Aptine, Nico, Lucho, Alex, d'avoir partagé vos impressions. Merci à Zinkou, comme d'hab, hein, fidèle au poste. Merci à Roll Amiral aussi en ligne pour vos questions et vos commentaires. À très vite. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas surtout. Pour les nouveaux qui vont écouter, à partager. Je sais que c'est un truc de fantasy et que vous ne voulez pas forcément, si vous nous avez découvert, le partager à vos potes de ligue, mais faites-le. On vous jure, on n'a pas la science infuse, on essaie juste de donner des analyses pertinentes et d'essayer de voir un peu comment ça se passait, mais on est plus là pour rigoler et partager avec vos potes parce que c'est comme ça que ça nous donne envie de continuer. Voilà les gars, je vous souhaite un bon lundi. Et une bonne semaine. Et on se dit à bientôt.
Et bonne nuit surtout.
Bonne semaine, à bientôt.
Ciao. Allez, ciao, ciao.